Bonjour et bienvenue dans Certains Lama Show. Aujourd'hui, c'est Halloween. Et j'ai avec moi la survivante des cinémas, Hera. Salut Hera.
Hello.
Et j'ai avec moi Thierry le psychopathe. Bonjour Thierry.
Bonjour Thomas.
Vous avez vu cette voix de psychopathe un peu? Donc Halloween, la suite de Halloween, qui met pas la suite de Halloween 1, 2, 3, 11, 40, 12 contre l'espace, contre les aliens, Jason X et compagnie, je ne sais pas. Donc Halloween, qui est la suite directe de Halloween, et qui efface tous les Halloween qu'il y a eu entre-temps. Vous n'avez rien compris, ben c'est normal, il n'y a rien à comprendre. Donc c'est un film qui donc succède au film de Carpenter, et qui reprend, juste la seule chose qu'il reprend, c'est Jamie Lee Curtis, la silhouette du méchant, voilà. Et un scénario très simple, hein, c'est l'histoire d'un tueur qui veut tuer tout le monde. C'est à peu près ça ?
Ouais, c'est à peu près ça.
Ouais, c'est à peu près ça. Allez, un petit bout de bande-annonce.
On est ici pour mener une enquête sur le patient qui a tué trois adolescents le soir d'Halloween 1978.
Il s'est fait tirer dessus par son propre psychiatre. Il a été arrêté cette nuit-là.
Et il a passé ses 40 dernières années en captivité.
Bonjour, Michael. J'ai quelque chose que vous aimeriez peut-être voir.
Nous avons Thierry qui trouve que j'ai été injuste sur la présentation. Vas-y, défends ce film, je t'en prie.
C'est pas l'histoire d'un tueur qui veut tuer tout le monde. C'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Dans le premier, à la grande limite, on peut dire que Michael Myers était quelqu'un qui, après avoir assassiné sa sœur, est devenu un tueur psychopathe qui voulait tuer tout le monde, qui s'est fait une obsession sur la seule personne qui y a survécu. Et là, le film part de Michael Myers qui a ruminé son meurtre pendant, enfin, son envie de meurtre pendant 40 ans. Et qui veut surtout accomplir ce meurtre-ci. Donc il suit un but, il est pas en train de tuer tout le monde, avec Laurie Strode qui décide de le poursuivre, de le buter. Il y a quand même un but, même si c'est pas forcément trop avoué non plus, quoi. Mais
ouais, il bute un peu tout ce qui est sur son passage, quoi.
Il bute ce qui est sur son passage, ça entièrement. De toute façon, c'est un gars qui n'a pas de morale par rapport à ça. Mais il y a quand même un but. Je veux dire, il y a une finalité à ce qu'il essaie de faire, quoi.
Donc tu trouves un semblant de justificatif à ce scénario. Très bien. Allez, ok. Il sort de prison 40 ans après, parce qu'on est 40 ans après le premier, d'accord. Il tue tout le monde pour tuer la survivante du premier film. Et est-ce que c'est un film qui fait trembler? Est-ce que tu as tremblé, toi, Hera, un peu dans...
Pas vraiment. Tendance, pas du tout. Après, c'était pas le but que je lui donnais, c'est peut-être le but qu'on donne souvent aux films d'horreur, mais en tout cas c'est pas celui que je souhaite avoir, c'est pas forcément la réaction que je souhaite avoir dans le cinéma, en sortant de ce type de film. Reste qu'on est quand même sur quelque chose qui n'est ni dans le suspense, ni dans le gore, ni dans le glauque, ni dans l'oppressant. À mon sens, on est vraiment sur le film de cinéma d'horreur américain très simple, qui moi ça m'a fait penser un peu à Scream 2. Je dis le 2 parce que je me souviens pas avoir vu les autres, enfin peut-être le 1, mais voilà, ça m'a fait penser un peu à l'ambiance à la Scream, donc c'est-à-dire quelque chose d'assez prévisible, où on comprend un peu les tenants et les aboutissants assez rapidement, où il y a évidemment du jumpscare, où c'est accompagné par une musique, mais où il n'y a pas une certaine innovation au niveau de la mise en scène en fait, c'est qu'on a un scénario qui est très simple, dont le côté recherche évidemment enquête par des journalistes qui sert juste de début de propos mais qui ne sert pas à grand chose au final, si peut-être à ce qu'il remette son costume en fait quand même effectivement, mais sinon pas face à une grande utilité, donc enfin tout est un peu vain à nouveau, je reviens vaguement là-dessus, tout est un peu vain. Thierry, par contre, t'as dit quelque chose dans la salle d'assez intéressant sur la personnification du mal, le mal incarné par le personnage. Et c'est vrai que ça, c'est un axe un peu différent, sur lequel j'aimerais réagir aussi, mais du coup, je te laisse t'exprimer d'abord à ce sujet.
En fait, pour moi, le film réussit exactement ce qu'il a voulu accomplir, mais il rate totalement ce qu'il devrait accomplir. C'est-à-dire que, en gros, Halloween, faut vraiment... Enfin, là, je vais le faire parce que bon, c'est intéressant. Et à la fois, c'est intéressant d'avoir des avis des gens qui n'ont pas forcément suivi la saga. Même plus intéressant parce que le film n'est pas forcément censé parler aux personnes qui l'ont vu. Sinon, ça se serait appelé Halloween 11. Ça s'appelle Halloween, donc on va le voir en se disant que c'est peut-être le premier. Enfin, je veux dire, il faut parler à tout le monde. Donc, en soi, sur ce point-là, il va être totalement raté. Il faut se redire qu'il y a une saga. Il y a une saga qui a duré pendant 40 ans. C'est le 11e volet. Et sans compter les deux remakes, on va dire que c'est le 9e. Ça fait quand même une flopée de films Halloween. Et Ça fait quand même depuis Halloween 2 que Halloween c'est de la merde. C'est-à-dire que Carpenter avait apporté un film qui était extrêmement fort à l'époque, avec justement la figure du mal sans personnification et sans justificatif. On a un côté déshumanisé qui veut juste apporter la mort, semer la mort, et sans la moindre once de remords, la moindre once de réel, enfin de réalisme au final. C'est aussi pour ça que le personnage est très grand, très fort. C'est pour ça qu'on ne voit jamais son visage et que c'est une forme qui se balade avec un masque. C'est pour retirer encore plus de sentiments. Mais donc du coup, là l'idée, je veux dire, il y en a plein qui apprécient à la limite Halloween 2 parce qu'il était scénarisé par Carpenter, mais Halloween 2 était un remake du premier, on faisait la même chose avec plus de meurtres, donc c'était ridicule. C'est à partir de là qu'on a commencé à faire du body count, à faire des trucs comme ça, alors que dans le premier, il tue 5 personnes et c'est tout, c'est déjà beaucoup, hein, mais c'était pas le côté on en fout à foison, dans le prochain il va les tuer, mais en faisant des mises en scène, en faisant ci, en faisant ça, puis tiens, on va mettre ça avec une star du hip-hop, parce qu'il y a toujours des stars de hip-hop dans les 10e ou 11e volets. Deux buts qu'il a très bien réussi. Éclater tout ce qui a été fait depuis, c'est-à-dire vraiment on dit merde à tout ça et réiconiser le personnage, parce qu'en faisant des suites qui étaient de plus en plus ridicules, c'était pas à ce point-là, mais c'était ça. Donc là, en fait, pour moi, le fait de le montrer d'abord normalement en prison, qui s'échappe, bon, qui va s'échapper de la façon la plus banale qui soit, en même temps, faut bien qu'il s'échappe, et lui redonner le masque, c'est une façon de réiconiser, de nous remontrer que ce qui est important, c'est son côté froid, totalement impersonnel, et son arme blanche. Et j'ai l'impression que justement, on nous a ramené à ça. Après, là où ça se plante mais méchamment, c'est que ça, voilà, ça aurait dû remettre ça dans un contexte moderne, ne pas juste nous réiconiser à mort ça, parce que ça nous réiconise la musique en nous mettant exactement la musique de Carpenter. Ça fait rien de plus que nous rappeler ce qu'on adorait dans Halloween et nous le réoffrir une seconde fois. Donc dans ce cas, autant regarder Halloween en fait.
Alors tu parles d'iconiser, je sais pas ce que t'as vu d'iconiser. Moi franchement, j'ai vu un méchant lambda. Mais vraiment quoi, c'est un mec, il est là, il a son masque, il est un peu paumé d'ailleurs, il est, quand il sait pas trop où il va, au moment on le voit, il cherche, il regarde à droite à gauche, il m'a pas fait trembler ce mec, à aucun moment il me fait trembler, je sais pas, il y a même, il est tellement, enfin, c'est un film qui fait tellement pas peur, derrière nous, on avait un rang d'ados, et des jeunes en plus, hein, qui étaient là, venus, je les ai vus arriver, on les a vus tous les trois, on s'est dit, on va avoir le film en 4DX, ils étaient en train de bouffer du popcorn, ils filaient des coups de pied dans les sièges en arrivant, on s'est dit, au premier jumpscare, tu vas voir, on va bouger dans tous les sens. Putain, ils ont pas bronché de tout le film. Ils ont pas bronché, je te dis, il n'y a rien, zéro, nada. Ils ont pas réagi, quoi. C'est pour te dire à quel point le film est complètement à côté des pompes, quoi.
Enfin, je reviens sur cette affaire de personnification, parce que j'aimerais bien ton avis là-dessus, Thierry. Enfin, j'aimerais bien qu'on débatte de ça. C'est, je pourrais être d'accord avec toi sur l'aspect... personnification du mal. Après, j'ai pas vu le premier Halloween. Ce qui m'embête, c'est que si c'était le mal incarné, il tuerait tout sur son passage. Il serait pas en quête de quelqu'un en particulier. Donc pour moi, il y a quand même une dimension où la personne, enfin, un psychopathe, bon, okay, peut-être. Peut-être qu'il va se mettre à chasser une proie en particulier et que c'est ça qui l'a marqué, mais reste que là, c'est un peu en ligne droite, il y a tout qui le conduit tout le temps vers elle. Il y a tout, de la même manière, il entre toujours dans les maisons, il entre toujours, il n'y a jamais rien qui bloque le mec, il sait toujours comment faire et pourtant, il n'y a jamais d'alerte qui est lancée contre lui. Enfin bon, j'ai l'impression qu'on essaie vraiment de, qu'au niveau de la scénarisation, ça a vraiment été guidé vers ce combat avec son passé et qu'au final, ça n'a pas vraiment servi un propos parce qu'on n'est pas face à, tu vois, au côté de dualité de deux, enfin, de combat entre deux personnages qui s'attendent, même si c'est ce qu'ils essayent de mettre, mais on ne le ressent pas forcément tout le long. En tout cas, je trouve ça assez mal amené. Au final, c'est d'une facilité déconcertante dans la gestion du scénar.
La manière dont il avait été apporté à la base, c'était vraiment, le côté il sème la mort sur son passage, c'était plutôt le cas. Je veux dire, tu rentrais dans son champ de vision, il te le tuait. C'est vrai que là, à un moment, il refuse un meurtre, d'ailleurs. Je pense qu'ils ont voulu, à la base, le montrer voilà, comme quelque chose qui veut juste tuer, qui va en être empêché par quelqu'un. Et à mon avis, la façon là dont je le perçois, c'est que je pense qu'il veut réussir à surmonter son premier obstacle pour ensuite continuer, en fait. C'est ce que dit le médecin, d'ailleurs, à un moment, qui veut juste continuer à perpétrer ce qu'il a fait. Et pour lui, Laurie Strode est de l'obstacle qui lui a survécu une fois. Donc, une fois passé cet obstacle, pour moi, il va juste continuer à tuer, en fait. Je pense pas que ce soit la finalité en soi. Après, oui, en effet, c'est vrai qu'il est quand même très dirigé vers ça. Même si, c'est vrai qu'il rentre dans des maisons en se disant que c'est sûrement la bonne maison. Et c'est vrai qu'il, du coup, commet deux, trois meurtres un peu aléatoirement à certains moments. Et c'est vrai qu'au final, c'est quand même lui qui finit par la trouver et pas elle qui finit par le trouver comme on pourrait le penser. Puisqu'au final, tout la dirige elle vers le fait qu'elle veut aussi le retrouver pour en finir avec un passé qu'elle marmonne également depuis 40 ans. Et ça, c'est vrai que c'est pas le cas.
T'as l'impression un peu que le mec est dans un village en fait, parce qu'il croise tellement tout le temps les personnes, les personnages principaux, c'est tellement évident pour lui, t'as l'impression que dès qu'il prend un chemin, il va croiser un des personnages qu'on avait vu en amont, ce qui est logique, mais ce qui est gros.
Si le fait qu'il trouve les gens du premier coup était la seule facilité scénaristique, Parce que scénaristiquement, c'est très très con quand même. C'est du niveau Red is Dead quand même. Alors Red is Dead, je rappelle, c'est le faux film d'horreur dans la Cité de la Peur, le film des nuls. Hein. Voilà, c'est le niveau, le scénario est à ce niveau-là. Là, on a quelqu'un, on a une experte en combat qui s'attend toute la journée, qui a une maison blindée, par exemple. Alors oui, parce qu'il y a des incohérences de scénario aussi. Donc l'héroïne a une maison blindée, elle attend depuis 40 ans, ça fait 40 ans qu'elle blinde sa maison. Il y a des fenêtres, il y a des grilles et des fenêtres blindées partout et tout est doublé. Mais quand le méchant arrive, elle l'attend à la seule porte-fenêtre où il n'y a pas de grille. Du coup, ben, il passe les bras au travers, il la chope, il la tabasse. Vous croyez... Enfin, oui, parce qu'elle est collée à la porte aussi.
Parce que, enfin, il y a un moment, c'est un peu comme tout, c'est que il faut que les choses avancent. Je crois que c'est le procédé scénaristique de Tarantino, le fait d'exécuter des, oui, c'est ça, le fait d'exécuter des personnages. Là, j'ai eu l'impression un peu de ça d'ailleurs. Hein. Côté, ben, il y a un moment où il faut que les choses avancent, donc j'exécute. Parce que sinon il se passe rien et on n'obtient jamais ce combat parce qu'il n'y a pas de manière de l'amener qui est spécialement plus originale.
C'est là qu'on voit que c'est mal branlé. Si on est obligé de faire des trucs débiles pour que ça avance, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Hein, je parle même pas du fait de se balader dans une maison exiguë. La nana, elle a c'est sa cave, c'est la cave de Sarah Connor, quoi. C'est, en gros, il y a des flingues partout. Non mais attends, il faut dire ce qui est. C'est que Sarah Connor, elle attend le Terminator depuis 40 ans, donc elle a tous les flingues possibles. Il y a même tous les flingues possibles et imaginables. Il y a même une arbalète dans le fond, on ne sait jamais. Elle a des flingues, des canonciers, des machins. Elle te prend le canon le plus long possible pour se balader dans les couloirs. Donc tu peux être sûr que comme l'autre il se bat au corps à corps, eh ben, bien sûr, elle va pas pouvoir tirer correctement. Tout est choquant de débilité et de trucs, quoi. Parce que autant que les babysitters, les ados, ils soient débiles, ils s'attendent pas à tomber sur un tueur psychopathe, ils fassent des erreurs, ils soient débiles, ils ont peur. Ok, mais pas ce perso-là, quoi.
Même ça, hein, au niveau gestion émotionnelle, gestion de l'attention par les personnages, je sais pas comment vous l'avez ressenti sur vos sièges, mais j'ai jamais été... touché par une réaction d'un des personnages. J'ai jamais senti quelqu'un réellement affolé. C'est très fake, très, encore une fois, très à l'américaine. Et encore, quand t'as une mise en scène qui remonte le niveau avec des mouvements de caméra ou des effets de jeu de lumière qui pourraient te plonger dans une angoisse, admettons, mais là c'est pas le cas, quoi. C'est très très spotlight ou jeu de clair-obscur et de brouillard, et c'est tout.
Sur le coup des personnages, ouais, parce qu'en plus le problème c'est que, bah, en plus, en voulant faire référence à au film qui a apporté tous ces codes-là, ben on les met à fond la caisse, donc on met les adolescents, on met le death by sex, on met presque le body count. Donc oui, non, en effet, les personnages vont pas être attirants une seule seconde, surtout qu'en plus, ben, il faut ressortir les cadavres du placard. Je veux dire, Donald Pleasance serait encore en vie qu'il y aurait pas eu de second docteur, hein, Loomis aurait été là, donc là, on le cite. D'ailleurs, bon, là, j'avoue, un personnage bien foiré, c'est le personnage du médecin, mais on va pas spécialement dire pourquoi, parce qu'on a déjà spoilé pas mal de trucs. L'idée est intéressante, la façon dont c'est amené est totalement inintéressante. Les personnages sont assez réduits. Par contre, moi, j'ai adoré l'ambiance. Peut-être parce que j'ai retrouvé aussi beaucoup de choses, hein. J'ai beaucoup beaucoup aimé l'image, la photographie, je l'ai trouvée vraiment très belle. J'ai trouvé que la musique allait toujours parfaitement. Et c'est plein de petits trucs comme ça que j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, j'ai beaucoup apprécié l'image, j'ai beaucoup apprécié tout ça.
Bien, donc tu restes enfermé dans ta folie, hein. Nous t'enfermerons à l'asile avec le psychopathe.
C'est un film de fanservice pur et dur. Si vous êtes fan d'Halloween, il faut y aller. Si vous n'êtes pas fan, ça va rien vous apporter. Matez Halloween de 78.
Ouais, ou La Cité de la Peur, c'est mieux. C'était Certains Lames à Chaud. Merci Hera.
Merci beaucoup.
Merci Thierry.
Merci Thomas.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous rejoindre sur SoundCloud ou iTunes, ou sur Facebook ou Twitter ou Instagram, ou sur tous les réseaux de la Terre. Likez-nous, commentez, mettez des étoiles, des pouces, des bisous, et plein de choses. Et si vous aussi vous rêvez de tuer vos amis pour Halloween, laissez un petit commentaire, on en parlera, on sait jamais, on peut peut-être vous soigner. Bisous bisous
bisous
bisous.